Bah, je m'appelle Arash, je suis né en Iran et j'ai grandi en France. Et du coup, j'ai cette double expérience des deux pays, mais qui est inversée avec mon pays d'origine étant mon pays étranger et mon pays d'accueil étant mon pays principal.
Pourquoi est-ce que l'Iran serait votre pays étranger ?
Simplement parce que c'est là où j'ai passé le moins de temps par rapport à la France. Du coup, j'ai le regard d'un Français sur l'Iran. Même si j'ai grandi avec mes parents et j'ai toujours été en lien avec l'Iran et surtout Téhéran. Mais j'ai toujours eu le point de vue d'un visiteur là-bas et pas de quelqu'un qui y vit en fait. Le monde est un campus.
Vous êtes parti d'Iran, vous aviez quel âge ?
2 ans. Mon père travaillait à l'ambassade. Et c'était des missions à l'étranger, et on allait avec lui partout où il était en mission. C'était d'abord en Suisse, à Genève. C'est là où j'ai passé mon enfance. La plus grande partie de mon enfance, toujours avec ses allers-retours. C'est aussi un endroit auquel je suis attaché. Après, c'était en France, parce que les missions ont changé. En France, je devais avoir 8 ans, ou 9 ans, quelque chose comme ça. Et depuis 2000, c'est toujours en France. Après, on savait qu'on serait amené à voyager ailleurs. Quelque part, c'était assez facile et assez intéressant de continuer un peu la vie de famille, mais dans différents lieux, dans différents pays. Tu pouvais voir que certaines choses se répétaient dans la manière dont tu te faisais des amis ou tu voyais les gens ou le quotidien. Et en même temps, d'autres choses qui variaient. Maintenant que je m'en rappelle, j'aime bien ces deux aspects-là de répétition et de variation partout où on allait. Ce truc de pas recommencer à zéro, mais de se réinstaller, de te refaire un cercle d'amis au fur et à mesure, j'aimais bien. Et je pense que quand on est petit ou jeune, c'est des choses très faciles. C'est comme apprendre une langue, ça va très vite.
Si l'Iran n'est pas votre pays de référence, est-ce qu'on pourrait dire que la langue iranienne, pour le coup, est vraiment un point d'ancrage important pour vous ?
Oui. La langue et la culture, c'est ce qu'on emporte avec nous. Après, c'est des choses qui se font... ça se fait même pas activement, c'est juste par l'utilisation du langage qu'après, je pense qu'il y a des traits de caractère ou des états d'esprit ou des manières d'être qui s'y rattachent. Le français, par exemple, l'iranien, c'est des langues que j'ai apprises naturellement en même temps. Ce qui est drôle, c'est qu'avec mes parents, c'était l'iranien parce que c'était juste normal. Avec mes camarades ou mes amis, c'était français. Et avec mon frère, c'était un mélange des deux. Comme on avait le même âge, dans l'espace de la maison où on parlait iranien, mais dès qu'on voulait employer des expressions ou des trucs, des mots cool ou des choses comme ça, on mélangeait les deux. Plus tard, quand je voyais que des écrivains comme Nabokov mélangeaient aussi, je me suis senti vachement proche de ce style d'écriture où on saute d'une langue à l'autre, très, très vite en fait. C'est quelque chose d'amusant, mais après c'est quelque chose aussi de pratique. Maintenant que je suis plus à l'aise dans le français, quand les mots me manquent en iranien, je les remplace par du français. Et du coup, il y a ce côté utile où une autre langue peut venir aider pour s'exprimer en fait.
Alors, vous disiez au début de l'interview que quand vous allez en Iran, vous voyez l'Iran comme un pays étranger. Alors, vous n'êtes pas complètement étranger non plus à ce pays, évidemment, puisque vous en avez le passeport. Qu'est-ce qui vous frappe et qu'est-ce qui vous interpelle à chaque fois quand vous y allez ?
Ah, moi, c'est l'humour des gens et juste l'attitude et leur énergie. C'est très vivant, c'est très dynamique et les 3/4 des blagues, moi, je ne les comprends pas. Mais j'y rigole un peu pour en faire partie. Mais plus j'y pense, plus j'ai l'impression que c'est des attitudes, c'est des manières d'être. Qui sont légères et graves en même temps. Enfin, légères au quotidien, dans les rapports, ça peut être aller acheter quelque chose et quand on achète, le vendeur vous fera une blague juste pour briser la glace ou juste pour vous taquiner, en fait, parce que ça le fait marrer aussi. Et c'est des sortes d'attitudes. Et c'est là où je me sens un peu étranger, c'est qu'on me repère tout de suite que je ne suis pas de Téhéran, par exemple. Et c'est simplement... Déjà, c'est l'accent. J'ai un accent français. Et après, c'est les discussions. C'est comme quand on dit dans certains quartiers, on peut savoir que t'es pas d'ici juste en marchant. C'est des choses... Peut-être comment tu t'assois, on va savoir que... Non, les gens le sentent, en fait. Mais après, c'est tout aussi intéressant parce qu'ils sont... Voilà, peut-être la deuxième chose que je sens qui fait partie aussi, peut-être de manière générale, c'est la curiosité. Et je pense que c'est lié aussi, comme c'est un pays où il est difficile de circuler dans d'autres pays. Je sais pas, les jeunes peuvent pas aussi facilement voyager un peu partout dans le monde. Du coup, ils sont beaucoup plus curieux dès qu'il y a quelqu'un de savoir comment les choses se passent, comment sont les filles, qu'est-ce qu'on fait là-bas pour s'amuser, comment on travaille. Des choses très, très banales, mais ils ont l'envie de voir à quoi ça ressemble. Et ça aussi, depuis que je suis petit, quand je disais que je me sentais étranger, c'est que c'était souvent des questions qu'on me posait, parce que tout le monde était super curieux. Et c'est à ce niveau-là, je pense aussi que la curiosité est importante, dans le sens où c'est aussi un pays qui est multiculturel, qui a beaucoup de peuples qui se sont mélangés, de cultures qui se sont mélangées. Du coup, c'est une sorte de melting pot aussi, même si on le voit pas de l'extérieur. Et je pense que pour eux, ouais, c'est normal de vouloir manger des nouvelles choses, voir des nouvelles personnes, de nouveaux lieux. Ouais, c'est assez présent aussi.
Alors, en ce qui vous concerne, Arache, vous avez fait des études d'art, vous êtes passé par les beaux-arts, les arts appliqués, vous êtes allé aussi à Berlin, à l'Université des arts de Berlin, vous avez fini vos études là au Frénois. Comment est né cet engouement pour les arts ou cette envie de pratiquer les arts?
Je pense que c'est un truc que notre mère nous a transmis, juste en nous encourageant à tout le temps avoir... à dessiner, à faire des sculptures, des choses comme ça. Avec mon frère aussi, c'est quelque chose qu'on faisait. Et c'était qui fait les meilleurs dessins ou qui fait le dessin le plus cool. Et de recopier ce qu'on pouvait voir à la télé dans nos dessins, c'était quelque chose de très, très simple. Et au fil du temps, ça s'est enrichi. Avec des choses comme le graffiti à l'adolescence. C'est quelque chose que j'avais tout le temps nourri. Et au moment de choisir les études après le bac, j'ai présenté à 3 écoles différentes et c'était d'abord les Beaux-Arts qui m'ont accepté. Du coup, je suis allé là-bas et ensuite j'ai fait une équivalence aux arts décoratifs. Et après, c'est vraiment de fil en aiguille, c'était pas un plan. Et c'était ouais, d'avoir des cadres dans lesquels je puisse travailler, réaliser des projets.
Est-ce qu'on pourrait revenir sur une de vos dernières vidéos, peut-être a priori celle en tout cas qui a l'air d'être le plus en lien avec votre histoire, qui s'appelle Terrangeles?
Oui, c'est la première fois où j'ai utilisé quelque chose qui fait partie un peu de ma vie ou de ma culture dans le travail. Et avant, je ne voulais pas du tout faire référence à mon vécu dans le travail, c'était plus de faire référence à des choses qui me sont inconnues ou étrangères, justement, que j'aimais bien. Et là, c'est d'utiliser quelque chose duquel j'étais proche. Et c'était principalement la ville de Téhéran. C'est aussi des choses que j'ai pu entendre de la génération qui est au-dessus de moi. Et via la ville, c'était comment leur vie aurait pu être si les choses étaient différentes, ainsi de suite. Et une sorte de mélancolie ou de nostalgie.
Parce que les personnes qu'on entend, les voix qu'on entend dans ce film, ce sont des gens qui ne vivent plus à Téhéran.
Ouais. Oui, oui. Il n'y a que des interviews où les gens nous parlent de Téhéran lorsqu'ils y vivaient. Mais au moment où ils nous parlent, ils n'y sont plus depuis très longtemps. Et ce qui m'intéressait, c'était cette distance dans le temps et dans l'espace où on parle de quelque chose qui nous est lointain. Dans les images, c'était d'imaginer une version occidentalisée de Téhéran. Prendre le Téhéran des années 70 et d'imaginer comment elle aurait pu être dans le présent. Faire comme une uchronie. Qui était aussi un rêve importé. C'était aussi l'Occident qui voulait que Téhéran soit comme ça. Du coup, c'était de montrer cette image un peu impossible d'une ville qui serait occidentalisée, qui soit une sorte de ville capitaliste avec des tours et beaucoup de lumière et des enseignes de partout. En utilisant Los Angeles comme le décor, parce que au moment où Téhéran était occidentalisé, on utilisait déjà des urbanistes de Los Angeles pour planifier la ville de Téhéran. Et aujourd'hui, quand on est dans Téhéran, on peut revoir des boulevards ou des autoroutes qui évoquent ce paysage un peu californien. Et c'était de pousser cette logique à son maximum en utilisant juste Los Angeles comme un remplaçant. En l'habillant avec les néons qu'on peut voir aujourd'hui dans Téhéran, il y a beaucoup d'enseignes très criardes qui polluent les rues, qui sont de toutes les couleurs, qui sont d'assez mauvais goût, qui flashent et qui sont juste là pour attirer l'œil. Et c'était de reprendre ces choses assez artisanales et assez pauvres et de les mettre en très grand, sur des grandes tours, comme ce rêve d'une ville qui aurait pu être plus grande ou qui aurait pu être plus glorieuse. De le montrer un peu comme un rêve impossible. Et c'est pour ça d'utiliser une autre ville comme une doublure et comme un faux. Représenter cette envie ou ce désir non accompli.
بذار همه چی که در حرف میزنیم بهت بگم دلم نمیخواست بیام من اصلا فکرش نمیکردم که یک روزی دوباره برگردم.
Et avec le dernier témoignage, parmi toutes les voix qu'on entend, il y a cette dernière voix d'une femme qui serait peut-être celle qui représente le mieux la voix de l'exil, une femme qui n'est bien nulle part.
On a tous un endroit auquel on est attaché en général. On a tous, que ce soit une maison ou un lieu. Et dans ce qu'elle racontait, c'est qu'elle a perdu ce lieu d'attachement. Et c'est pas forcément... Le lieu d'attachement n'a pas à être forcément là où on est né, il peut être là où on va ou là où on voudrait être. Mais avec elle, c'est qu'elle en a plus. Et que ce n'est plus d'où elle vient et ce n'est plus où elle est aujourd'hui, où elle se sent chez elle. Et j'aimais bien cette idée où elle est nulle part. Et cette perte d'origine, qui peut être triste, mais qui peut être aussi libératrice. C'est ça que j'aimais bien dans son dernier témoignage, c'est qu'il y a une perte de repère et une perte d'orientation. Et elle parle justement de la perte de cet endroit à la fin. Et c'était ça que j'appréciais dans son témoignage.
Est-ce que ça peut résonner en vous, ce sentiment-là ?
Plus aujourd'hui, ça a résonné un moment. Après, j'ai pas du tout la même expérience qu'elle. La personne qui parlait, c'était quelqu'un qui a vécu longtemps à Téhéran et qui est parti. Et avec le temps, elle reconnaît plus sa ville d'origine. Et comme c'est quelqu'un qui... C'est pas quelqu'un qui a, dès son enfance, vécu à l'étranger. Comme aujourd'hui, elle est à l'étranger, elle se sent à l'étranger. Et sa ville d'origine est devenue étrangère. Et moi, non, parce que dès mon enfance, j'étais déjà en Europe. Et du coup, je me sens chez moi ici. Et en Iran, j'accepte que j'y sois plus, même si je sais que j'y suis très attaché et que c'est un endroit très important pour moi. Ça me dérange pas que ce soit un endroit que je visite. Et je pense c'est aussi qu'on est des générations différentes. Et moi, je me sens des deux. Plus, autant elle se sent de nulle part, moi, je me sens bien dans les deux. Mais je pense que c'est aussi des choses qui peuvent changer dans le temps. Et c'est des choses qu'on construit. Et peut-être que même la dame qui a témoigné, d'ici peu de temps, elle aussi sera à nouveau chez elle. Alors, réussir à reconstituer son chez-elle là-bas.
Le monde est un campus. Une émission de Céline Duchesnay sur France Culture+.